Alors, dimanche dernier, le texte de Matthieu nous a un petit peu secoué à bien réfléchir si nous étions au service de la loi ou si on a compris que la loi était un moyen que Dieu utilise pour qu'on le connaisse mieux finalement, pour mieux aimer ceux qui nous entourent et mieux se connaître et mieux s'aimer soi-même. Et ce matin, dans le chapitre 6 de Matthieu, Jésus va continuer ce développement. Il va nous faire réfléchir encore dans la même idée. Est-ce que notre foi est réellement authentique ou est-ce qu'on est dans la pratique religieuse? La pratique religieuse a quelque chose de particulier, c'est qu'elle est centrée sur soi. Hein? Et finalement, le regard de ceux qui nous entourent compte énormément. Et peut-être que petit à petit, Dieu devient un prétexte pour que ça me fasse du bien et que je me sente bien par rapport au regard de ceux qui m'entourent. Vous connaissez très certainement ce verset de Ecclésiaste 3, chapitre 11, je vais le lire. Il a fait toutes choses belles au moment voulu, ou en son temps, dans certaines vieilles versions. Il a même mis dans le cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Mais on a ce vide, cette pensée qui est en nous. Et malheureusement, on pourrait être tenté de la combler par quelque chose de religieux. Forcément, ce sera insatisfaisant. Et peut-être que pour se rassurer, on va chercher la validation dans des gestes religieux, dans le regard de ceux qui sont autour de nous. Et on se dit, ah ouais, si je fais ça, ils sont d'accord, donc peut-être que ça a un impact ici. Peut-être que si on est très bon, ça même flatte notre orgueil, hein. Mais en même temps, ce n'est pas satisfaisant. Il y a une forme de doute. Est-ce que vraiment c'est assez? Est-ce que ça correspond à quelque chose? Et voilà, il reste ce goût d'inachevé. Et ce matin, Jésus va nous faire réfléchir justement dans les gestes que l'on fait. Est-ce que c'est l'écho de notre foi avec lui? Ou est-ce que c'est des gestes que l'on pratique pour que ça nous fasse un bien d'une manière horizontale? Alors, quatre domaines, on pourra voir ce matin. Ceux des dons, de la générosité, hein, de la prière, du pardon et du jeûne. Pas les jeûnes, le jeûne. Hein. Et avec la scène qu'on prendra ensemble, ce sera l'occasion de vivre un moment qui pourrait être un moment religieux, mais de le vivre d'une manière réelle, avec toute sa signification. Hein. Et en somme, Dieu ne veut pas que nous soyons des chrétiens pratiquants. Dieu aimerait qu'on soit ses disciples. Hein? Il y a le danger à être des chrétiens pratiquants, d'être des évangéliques pratiquants. Il y a même maintenant dans les études statistiques des évangéliques non pratiquants. Dieu aimerait qu'on soit des disciples, ce qui est bien différent. Et justement, le texte de Matthieu chapitre 5, on a lu le texte de Matthieu chapitre 6, est adressé à ses disciples. Et mettons-nous dans cette position-là d'être des disciples de Jésus. Et je vous invite à justement prendre Matthieu 6 et on va d'abord lire les versets 1 à 4. Et justement, dans le domaine de la générosité, Jésus va nous faire réfléchir, savoir si la générosité, on la pratique pour quelque chose d'horizontal ou quelque chose qui est en relation réellement avec Dieu. Alors, Matthieu 6, 1 à 4, gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra lui-même ouvertement. Alors c'est intéressant ici, la générosité dont il est question, et la générosité à la fois faite pour son prochain, mais en même temps il y a un exemple qui est dans les synagogues, pour ce qui est fait pour Dieu. Et, étonnant, la générosité est récompensée. Hein? C'est marqué clairement dans ce texte, et vous allez voir que le sujet de la récompense revient beaucoup dans Matthieu chapitre 6. Alors, la générosité est récompensée soit par Dieu, ben soit par le regard des hommes, si on le fait pour les hommes. Hein? Si on le fait dans le secret, Dieu le voit, il parle de récompense, mais si on le fait, regardez ce que je donne, et devant tout le monde, ben, tout le monde dit « Ah oui, il est bien généreux, donc il a sa récompense. » Ce texte est assez clair, nous sommes invités à être généreux, à faire des dons dans la discrétion. Hein. Et même dans la plus grande discrétion, même si c'est en secret, que personne ne le sait, même pas notre banquier, hein, même pas le fisc, Dieu le sait. Hein. Alors, ces paroles sous-entendent que nous faisons des dons et que nous sommes généreux. Ce n'est pas une option. Quand vous faites des dons. Hein. Et me vient donc un texte pour illustrer les paroles de Jésus. Alors, je l'ai cité il y a déjà 2-3 semaines ou un mois, je ne sais plus exactement. Il se trouve dans Acte 10 avec Corneille, les 4 premiers versets de Acte 10. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était officier de la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille ! » Il fixa les regards sur lui et rempli de crainte répondit « Qu'y a-t-il Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. » Pas que Dieu les avait oubliés, mais il relève quelque chose. C'est dans ce sens-là souvent qui est marqué « souvenu ». Et comme je l'ai dit il y a encore quelques temps, Corneille a une belle récompense, peut-être la plus belle. Hein, ça a été le premier non-juif, païen, gentil, ça dépend comment, à avoir l'annonce de l'Évangile, à l'accepter, et lui et sa maison. Et donc, ça a été un joli moment, un moment unique dans l'histoire, justement, de l'Évangile. Alors, la Bible parle de récompense. C'est impossible de dire comment Dieu le manifeste réellement, hein, mais ça n'est pas un investissement. Je ne fais pas un don pour dire, bon, Dieu va faire une récompense, donc je fais un petit placement là. Hein. Non, ce n'est pas dans cet esprit-là. Mais Dieu le voit, et dans la relation simple, normale avec Dieu, Dieu en tient compte. Hein. Il est attentif, même quand on le fait dans la discrétion. Et à l'inverse, justement, de faire des dons pour qu'on le remarque autour de soi. Il y a quelques jours, la cathédrale Notre-Dame a été inaugurée et comme par hasard, on sait quels sont les grands donateurs. Vous avez certainement entendu que Patrice Berger a donné des millions. Hein. Et donc, ces personnes, ces grands donateurs le font pourquoi? Parce que c'est un retour médiatique, ça fait de la publicité pour eux. Donc, ils le font pour avoir leur récompense de leur vivant. Et on pourrait agir de la même manière, que notre générosité ne se trompe pas de personne, hein, qu'elle ne soit pas orientée pour qu'elle soit remarquée, mais que notre générosité touche notre prochain et aussi soit une générosité qui soit réellement orientée vers Dieu avec cœur, authenticité et discrétion. Et c'est un peu la même idée à partir du verset 5 de Matthieu dans le domaine de la prière. Alors, on est un peu peut-être moins habitués, nous, au domaine de la prière. Les prières se faisaient beaucoup plus en public, dans les synagogues, et ça pouvait être un petit peu la course à celui qui avait la plus belle prière, qui parlait le plus fort, etc. Nous, quand on a des moments de prière, on attend plutôt qu'il y ait quelqu'un qui commence à prier, hein. Donc c'est un peu l'inverse, mais on essaie de se mettre quand même dans cette ambiance-là. Matthieu chapitre 5, chapitre 6, verset 5. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Ah oui, ils ont eu la récompense. Ils sont remarqués, ils sont vus de tout le monde. Ben en fait, c'est ça qu'ils voulaient, hein. Donc, ben, ils ont leur récompense, ils sont vus de tout le monde, hein. Verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Voilà la même idée que tout à l'heure avec les dons. Ici, même si c'est dans la plus grande des discrétions, Dieu le voit, mais même plus, il est là. Hein? Et donc présent dans ces moments de prière. Verset 7. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ah, intéressant. Très intéressant. Pourquoi ils multiplient les paroles? Craindraient-ils que leur divinité ne répond pas? Qu'il n'y a rien derrière? Donc on multiplie, on ne sait jamais sur un malentendu. Ça nous rappelle un peu Baal et Élie au Mont Carmel. Hein? Il y a ce défi qui est lancé et les prophètes de Baal commencent, ils sont quand même 450 à prier, donc ça fait du volume. Hein? Et ça dure, et finalement il n'y a pas de réponse. Et Élie, à une seule parole, démontre l'inverse, que Dieu écoute et Dieu répond. Alors, dans Matthieu chapitre 6, verset 8, hein, ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alors, on pourrait se dire, pourquoi prier, hein? Mais c'est comme dans une relation. Bien souvent, nos enfants, on sait de quoi ils ont besoin. Puis c'est sympa quand ils disent s'il te plaît et merci. Hein? Donc ça, une sorte de relation, c'est un petit peu la même chose aussi avec Dieu. Mais pour vous qui êtes des lecteurs habitués de la Bible, est-ce que ce texte ne vous dérange pas avec la parabole de la veuve et du juge inique? Parce qu'elle insiste, elle insiste, elle insiste. Hein? Alors ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans la parabole du juge inique et de la veuve, c'est un encouragement à prier avec foi sans se décourager. C'est ça le but de cette parabole. Pas de saturer hein, les ondes, voire les moulins à prière ou je ne sais pas, les bracelets ou tout ce que l'on peut faire. Ce n'est pas l'idée de saturer, puis comme c'est saturé, ben, on aura une priorité de réponse. Non, l'idée c'est, on sait que Dieu répond, mais des fois il nous demande aussi de la persévérance hein, et de prier avec foi sans se décourager. D'ailleurs, Jésus va donner un exemple de prière, on l'a chanté tout à l'heure, c'est à partir du verset 9. Il va dire tout simplement, voici comment vous devez prier. Hein. Et la prière, elle est adressée à qui? À Dieu. Hein. Voilà. Elle n'est pas adressée aux personnes en premier qui nous écoutent. Elle est adressée à Dieu. Hein. Et justement, dans toute sa grandeur. Et Dieu n'est pas un prétexte ou un copain. Hein. Ce n'est pas notre petite conscience qui se balade comme Jiminy Cricket dans Pinocchio. Hein. Dieu, non, dans toute sa grandeur, on a le privilège de pouvoir lui adresser des prières, pas pour se tranquilliser nous-mêmes, pas pour s'afficher, mais parce qu'on les adresse à lui. Notre Père céleste, verset 9, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc là, on reconnaît Dieu dans sa royauté et sa souveraineté sur toute chose, et on aspire que sa volonté puisse se faire et que nos demandes aussi se calquent sur ce qui est sa volonté. Et on va reconnaître notre dépendance de lui pour nos besoins, dans le domaine naturel, spirituel, pour notre souci, pour notre prochain, et ainsi de suite. Regardez au verset 10. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Donc, ce n'est pas un dû, ce n'est pas une obligation. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et donc, notre volonté se calque sur la volonté de Dieu dans le domaine du pardon. Les épreuves aussi, on peut prier que les épreuves ne se transforment pas en tentation. Vous savez qu'en grec, le mot épreuve et tentation, c'est le même mot. C'est une épreuve si c'est vécu avec Dieu, et ça devient une tentation quand on le vit tout seul. Et justement, l'idée ici, c'est de pouvoir passer ces épreuves avec Dieu et pas vécu tout seul en s'appuyant sur nous-mêmes. Verset 13, « Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Amen. Alors ce texte suppose que nous prions. Ce n'est pas une option. Ce texte, Jésus, quand vous priez, voilà, ça suppose que c'est quelque chose que l'on pratique en tant que disciple. Donc la prière n'est pas un matraquage, c'est pas non plus une incantation, une formule magique, et même pas le Notre Père. Ce serait quand même un comble que juste avant ils disent « Ne répétez pas des prières comme les païens » et qu'on recite le Notre Père d'une manière comme un moulin. Ça voudrait dire qu'on ait mal lu le texte, qu'on n'ait pas bien tout compris. Et faisons, donc prions avec une bonne attitude, adressée vers Dieu dans tout ce qu'il représente et conscient de sa présence, de ses possibilités, de son écoute aussi. Troisième domaine, celui du pardon. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Dieu n'est pas le complice d'un chef mafieux qui règle ses comptes ou ses dettes d'honneur, comme dans les films. Mais Dieu n'est pas non plus le complice de nos intransigeances. Et peut-être qu'on a de la peine à pardonner, alors qu'on bénéficie de toutes ces grâces. C'est ça l'idée. Et d'ailleurs, Jésus va dire, toujours dans le même évangile, regardez dans Matthieu chapitre 18, au verset 23, vous pouvez chercher dans vos Bibles, Matthieu 18, verset 23, il va nous donner un exemple justement de cette incohérence entre être au bénéfice du pardon de Dieu, par Jésus, nous, on est pardonné, et à l'inverse, ne pas pardonner à notre prochain. Donc c'est une parabole, donc une illustration de cette réalité. Mais il parle du royaume des cieux. Le royaume des cieux est comme ça. Si Dieu pardonne à nous de pardonner aussi, et il va prendre un exemple pour l'illustrer. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui a voulu régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Donc, un très grand pardon. Le fait d'emprisonner les parents, toute la famille, etc., n'aurait jamais comblé l'immense dette que ça représente et lui n'aurait jamais pu la rembourser. Verset 28, « Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces. » Donc ça, c'est 3-4 mois. Hein. « 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant « Prends patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que votre Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Hein ? Pas d'une manière religieuse, pas du bout des lèvres, mais pardonner réellement. Et donc, vous voyez, cette image illustre bien ce que Jésus vient de dire juste avant. Si on est au bénéfice d'un grand pardon, ben, un disciple doit pardonner. Voilà. Pour des choses qui sont des choses souvent de la vie. Alors des fois, c'est des choses qui peuvent être fortes, hein, mais au regard de ce que Dieu nous a pardonné au travers de Jésus, ce ne sera jamais à la hauteur de pardon que nous aurons ici à vivre. Ça suppose que nous pardonnons. Là aussi, et avec cœur et sincèrement. Matthieu 6, verset 16, nous parle du jeûne. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes. Mais ton père qui est là, dans le lieu secret, et ton père voit dans le lieu secret, te le rendra. Là, on retrouve exactement la même opposition qu'on a eue dans les autres domaines. Est-ce que l'on jeûne pour que les autres le remarquent ou est-ce qu'on le fait pour Dieu dans cet esprit-là? Et on voit à nouveau que Dieu tient compte, même si c'est discret, même si personne ne le remarque, Dieu tient compte de ce que l'on fait. Le jeûne est pour Dieu, entre lui et moi, hein. Et on ne le fait pas plus remarquer que ça. Même si c'est hyper discret, il s'en rend compte. Cela suppose que l'on jeûne. C'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, donc peut-être on n'a pas une énorme pratique. Hein? Cela suppose que l'on jeûne, tout comme l'on prie, tout comme on est généreux, tout comme on pardonne. Quel est le but du jeûne ? Quel est le but du jeûne ? Eh bien, de laisser les préoccupations, celles qui prennent du temps, qui sont un peu chronophages ou qui nous prennent beaucoup dans les pensées, dans la tête, pour offrir cette disponibilité à Dieu, un cœur à cœur avec Dieu. Et à l'époque où Jésus écrit, il y a un des aspects qui est hyper prenant, qui est chronophage, qui demande tout le temps de l'anticipation, de réfléchir, qui prend beaucoup de temps manuel, qui prend des heures, etc. Je rappelle que si on fait l'effort d'être à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de supermarché. Coop et Migros n'existaient pas. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'aliments transformés, que si on veut faire du pain ou une tarte, soit on a déjà quelqu'un qui a fait de la farine et a permis de moudre le blé, soit il faut le faire. Et c'est long. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette manipulation, c'est long. Hein. Je rappelle qu'il n'y a pas de frigo à l'époque. Hein. Donc, si on a besoin de denrées périssables, c'est des denrées que l'on achète au quotidien. Hein. Je rappelle qu'il n'y a pas de gaz, d'électricité, et que pour cuire, on ne fait pas clic-clic-clic, ou on ne tourne pas la vitrocéramique ou l'induction. Hein. Donc, il va falloir trouver du bois. Si on a besoin d'eau, il faut aller puiser l'eau. Et vous voyez, tous ces gestes accumulés font que ça prend du temps. Rien que j'ai eu le privilège de faire la cuisine au Berghaus quand c'était encore les cuisinières à bois. Peut-être que dans la salle, certains l'ont fait. Et c'était le matin, il fallait se lever tôt déjà pour que ça monte en température. Hein. Et on mettait le lait dessus, on devait le faire, parce que c'était le lait de l'alpage, on devait le faire bouillir. Et des fois, on s'endormait un petit peu, mais on était réveillé quand ça débordait. Hein. Voilà, mais ça prenait du temps, il fallait anticiper. Et voyez, tous ces gestes du quotidien, rien que pour faire à manger, étaient chronophages et demandaient beaucoup d'attention et d'anticipation. Et ne pas manger, jeûner sur le plan... de l'alimentation, eh bien, c'était offrir énormément de temps à Dieu pour pouvoir être de cœur à cœur avec lui sans ses préoccupations. On pourrait réfléchir, nous, quel est le jeûne qui est peut-être le plus utile pour qu'on ait un réel cœur à cœur avec Dieu. Qu'est-ce qui prend beaucoup d'espace dans nos pensées qui nous saturent, nos disponibilités, etc., et ainsi de suite. Moi, je crois que si on faisait un jeûne numérique, pas de Wi-Fi, pas de smartphone, pas de tablette, pas d'ordi, est-ce que on se libérerait pas un petit peu de temps dans nos pensées que l'on pourrait offrir à Dieu. Les camps de la JAP Suisse ont une excellente habitude avec les jeunes. Quand les jeunes viennent au camp, eh ben les jeunes font des vacances à leur smartphone qu'ils laissent à la maison. Et c'est extraordinaire. Si c'est des moments très forts avec Dieu, c'est parce qu'ils ne sont pas pollués. Et si c'est des moments très forts d'amitié, c'est que les personnes existent en vrai, hein, pas que en selfie, hein, pas que en vidéo. Il y a des gens en vrai à côté d'eux et on peut avoir de vraies relations aussi. Mais on est pareil. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de laisser, ne serait-ce qu'une semaine, ces engins ou de couper le Wi-Fi chez vous? Tout d'un coup, on se met à réfléchir. Parce qu'avant, on ne réfléchit pas, on regarde. Tout d'un coup, on se met à avoir des pensées, des temps de prière, des réflexions, des méditations. Peut-être que pour nous, ce n'est pas tellement la nourriture, le problème qui nous prend, qui nous occupe, etc. Mais un jeûne numérique, ça c'est bien. Et je peux vous le dire, c'est pour moi aussi des moments, je le fais régulièrement, c'est des moments très précieux, justement, où plein de choses émergent dans notre relation avec Dieu et qui sont très, très bénéfiques. Alors, bien sûr, c'est personnel. Les personnes, je ne veux pas l'imposer, on ne le montre pas. Hein, c'est le but, c'est le sens de ce texte. Mais Dieu le voit. Et si on le fait, ce n'est pas juste pour... voilà, ça fait du bien d'arrêter, etc. Mais c'est pour qu'on ait un temps particulier avec lui, le rechercher réellement, authentiquement, profondément et dans la discrétion. Alors, si on coupe son téléphone, peut-être que les autres vont dire que ce sera moins dans la discrétion parce qu'ils n'arrivent pas à nous joindre et puis ils seront étonnés qu'on ne réponde pas dans la nanoseconde derrière. Voilà pour le texte de ce matin. Mais quatre exemples qui nous font réfléchir, ces gestes. Est-ce que je les fais en chrétien pratiquant ou est-ce que je cherche comme un disciple à rechercher réellement Dieu? Alors, vous savez que on essaye toujours de faire le bilan du texte qu'on lit dans quatre domaines. Qu'est-ce que j'apprends de Dieu, de son royaume, hein? Qu'est-ce que je vais apprendre de nous, les hommes, hein? Qu'est-ce que ça souligne, ce texte de nous, les hommes? Qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Et qu'est-ce que je pourrais transmettre? Eh bien, quelques pistes, mais peut-être que vous avez déjà les vôtres. Elles sont certainement plus adaptées et meilleures que les miennes. Je crois que ce texte nous invite à avoir une vision renouvelée de Dieu. Hein? Et des fois, je trouve bizarre, quand on parle de Dieu, on a l'impression que c'est un objet religieux, philosophique, de débat, mais il était là bien avant nous quand même. Hein? C'est lui notre créateur, il nous dépasse en tout. Et essayons de réfléchir, Dieu est Dieu. Ce n'est pas une divinité, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut ergoter ou débattre comme ça. C'est une personne bien supérieure, bien plus grande qu'on pourrait même ne l'imaginer. Et ce qu'il y a de beau, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, mais il est là, il est présent dans tous ses gestes, même s'ils sont faits en secret. Et vous pourrez souligner que dans Matthieu 6, il est là quand on prie. Il n'y a pas besoin d'être deux ou trois rassemblés. Hein. Matthieu 18 parle de deux ou trois rassemblés en son nom. C'est un encouragement dans le domaine du pardon et de la réconciliation. Mais le texte de ce matin nous dit qu'il est là même si on est tout seul dans le lieu secret, dans la cave, dans un abri anti-atomique pour prier. Il est là. Dieu est là. Dans sa grandeur, il n'a pas besoin de qu'on triangule éventuellement. Hein. Il est là. Là, cette semaine, j'espère qu'on y pensera, un endroit peut-être particulier et de dire « Ah tiens, il est là ». Il aime l'authenticité dans la relation. Il n'aime pas l'hypocrisie. D'ailleurs, il y avait le terme hypocrisie et elle est presque synonyme des religieux de l'époque. Vous voyez, l'idée de l'hypocrisie, c'est mettre littéralement un masque et jouer quelqu'un d'autre. C'était comme ça, les hypocrites, c'était des acteurs. Hein. Eh bien, c'est presque synonyme dans chapitre 5. Hypocrite et les religieux, le système religieux, c'est presque des synonymes dans ce texte. Dieu cherche l'authenticité avec notre personnalité et notre cœur qui s'adresse à lui réellement. Et son royaume, il a son image, son royaume ne supporte pas l'hypocrisie, hein, mais recherche des cœurs réellement ouverts. Qu'est-ce que l'on apprend des hommes ? Ben, peut-être qu'on est en danger parce que dans notre besoin de relation, des fois, on a besoin de reconnaissance. Et peut-être que ce besoin de reconnaissance, on va mal le placer, justement, en faisant de la piété quelque chose de religieux pour avoir en retour de la reconnaissance autour de nous. Mais ce vide de reconnaissance, cherchons-le vers celui qui comble réellement. Et avec lui, on a aussi des relations qui sont des relations normales. Mais ne faisons pas de Dieu le prétexte pour combler un vide relationnel ou quelque chose pour que les gestes que l'on fait nous apportent quelque chose. Ce que l'on apprend des disciples ici, c'est que les disciples font des dons, les disciples prient, les disciples pardonnent et les disciples jeûnent. Quand il en parle avec ses disciples, justement, Jésus, ce n'est pas optionnel. Alors, sauf pour le pardon, hein, parce que, ben, il faut qu'il y ait un différent pour qu'on pardonne. On ne va pas pardonner pour pardonner comme ça, hein. Mais voilà, ça n'est pas un devoir, ce n'est pas une obligation, c'est quelque chose qui se vit naturellement avec Dieu, dans notre relation avec Dieu. Et vous vous souvenez de ce que Jésus disait? Que l'on soit vraiment le sel de la terre et qu'on soit vraiment la lumière du monde. Eh bien, les disciples, ben, ça se voit, ben, parce qu'ils donnent. Les disciples, ça se voit, ben, parce qu'ils prient. Les disciples, ça se voit, ben, parce que ils pardonnent. Les disciples, ça se voit, parce qu'ils jeûnent. Pas qu'ils le montrent publiquement, mais parce qu'ils le vivent, hein. Pas parce qu'ils l'affichent, mais parce qu'ils le vivent, sans forcément se soucier du regard de ceux qui sont autour d'eux, mais parce qu'ils le font en cœur à cœur avec Dieu et que ces gestes aussi le font aussi pour leurs prochains. Alors ce texte va peut-être nous donner à réfléchir pour cette semaine, le troisième point. Hein? Peut-être qu'il y a des domaines de notre vie de disciple qu'on a atrophiés, que l'on pratique peu ou pas. Peut-être dans le domaine des dons. Peut-être dans le domaine de la prière, peut-être dans le domaine du pardon ou du jeûne. Hein? Alors peut-être ça va nous dire, ah oui, cette semaine, j'ai peut-être faire un jeûne numérique de 3 minutes. Pas sûr que l'on tienne. Ouais. Il y en a qui se font aider, hein, ils se font voler leur portable. Mais, voilà, je plaisante un petit peu, mais c'est bien de se poser la question dans quel domaine, justement, peut-être que j'ai pas, c'est le pardon, peut-être que j'ai de la peine à donner parce que j'ai très très peu. Peut-être que dans le domaine de la prière, c'est un petit peu toujours la même chose. Alors je ne dis pas le Notre Père, mais c'est peut-être un petit peu toujours la même chose. Eh bien que dans la semaine, le Seigneur peut-être nous aide à réfléchir et nous renouvelle pour l'un ou l'autre de ces domaines, ou peut-être qu'on pratique déjà régulièrement, mais peut-être pas avec le bon objectif, parce que peut-être que la régularité, eh bien, on le fait parce qu'on doit le faire, ou par un peu par superstition, par habitude, et que cette habitude, ben, en fait, on oublie à qui on s'adresse réellement. Alors, cette semaine, je vais faire quelque chose dans un de ces 4 domaines, d'accord? Et qu'est-ce que je pourrais transmettre aux personnes qui nous entourent? Et ça, c'est un sujet, peut-être au travail, peut-être dans les études. Ça, c'est vraiment un sujet excellent de discussion. Parce que si vous regardez les personnes qui sont autour de nous, sont pas forcément contre Dieu, mais elles en ont marre de la religion, des singeries de la religion, hein, de tout ce que représente le système religieux. En fait, souvent, ils sont plus anticlérical que contre Dieu. Et ça peut être excellent de leur dire, mais Dieu s'insurge contre cette idée-là. Dieu veut une vraie relation entre lui et les personnes. D'ailleurs, il a dit, et c'est écrit d'ailleurs dans un texte, un des textes les plus connus, le Notre Père, on peut dire. Ah, tout le monde connaît le Notre Père. Eh bien, c'est une prière qu'il ne faut pas réciter. Ah bon? Ben oui, il dit avant juste avant de ne pas faire comme ceux des autres nations. Et ça peut être un super sujet de discussion de dire, mais Dieu ne cherche absolument pas la religiosité. Jésus s'est insurgé contre cela. Donc, il est vraiment passionnant, hein, ce chapitre 6, et il nous donne quelque chose de pratique à pouvoir vivre, à transmettre autour de ceux qui nous entourent, que ce soit à la maison, aux études, ou au travail, ou ailleurs, là où on sera. Ça tombe bien, en plus, il y a les fêtes, donc peut-être avoir des discussions comme ça dans les familles aussi, c'est impeccable.